Guermann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 8 janvier 2025. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde.
Donc, bonne année. C'est notre premier balado de l'année. Et nous étions en vacances depuis le 23 décembre. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les nouvelles financières qui ont retenu ton attention depuis la dernière semaine?
Bien, on va surtout parler des performances là, pour l'année 2024. Donc, une année là, qui a été excellente à tout point de vue du côté des marchés boursiers. Le TSX a terminé en hausse de 21,6 %. Et ce, malgré que le mois de décembre a été négatif de 3,2. Le S&P 500 termine en hausse de 25 % durant le mois de décembre. On a quand même subi une baisse de 2,4 et le Nasdaq a terminé à 29,6 %. En décembre, le Nasdaq a quand même terminé à la hausse là, de 0,6. Quand même, là, entre 21,6 puis 29,6 là, du côté des actions, c'est des excellentes performances boursières. Qui l'eût cru, là, 2024, on avait toutes sortes de bonnes raisons d'avoir peur. Les taux d'intérêt étaient élevés, la guerre et tout ça, puis pourtant, les bourses ont très bien performé. Du côté des obligations, ça a été un peu plus modeste. Le rendement de l'indice obligation universelle, 4,2 %, c'est quand même, on s'attendait là, à des baisses de taux. On a eu des baisses de taux au Canada, moins aux États-Unis, mais les taux d'intérêt sur les termes de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans ont moins baissé que prévu. C'est ce qui fait là, que l'indice obligataire universel n'a pas eu la performance aussi élevée que moi j'aurais attendu. Donc, où on en est au niveau des taux d'intérêt? Ben, les obligations du Canada 10 ans au 31 décembre à 3,2 %, du côté américain à 4,5 %. Donc, un écart d'à peu près 1,3 % de plus en faveur des États-Unis, ben c'est ça qui explique que notre dollar canadien, notre pauvre dollar canadien, est à 69,5. Le dollar canadien a donc quand même beaucoup baissé là, durant l'année 2024. Si cet écart de taux-là se résorbe, ben on verra si le dollar canadien va se replacer. Il y a quand même toutes sortes de données politiques qui peuvent avoir un impact. On sait que le 20 janvier, on a un nouveau président aux États-Unis qui va prendre place avec toutes sortes de politiques prévues. On verra qu'est-ce qu'il va mettre en place. Évidemment, ce qui retient aussi notre attention, le départ de Justin Trudeau, qui a l'intention de démissionner quand un nouveau chef sera nommé. C'est quand même une nouvelle, là. Ça n'arrive pas tellement souvent là, qu'un premier ministre démissionne. Donc, c'était une nouvelle qui n'a pas un grand impact sur les marchés financiers, là, mais qui va certainement changer le portrait politique là, dans les prochains mois, amener le Canada présumément en élection. Donc, on verra aussi qu'est-ce que ça aura comme impact sur le taux d'inclusion du gain en capital. C'est encore pas clair quel sera l'impact. On sait que le projet de loi n'avait pas été adopté, mais l'ARC a mentionné qu'elles avaient l'intention quand même d'appliquer le 2/3. Bon, moi, je vous dirais que, tu sais, pour l'instant, il n'y a rien qui est changé. Assumons que c'est le 2/3, mais le projet de loi n'a donc pas été adopté. On peut penser que le Parlement va tomber à la reprise des travaux en mars. Ça va être quoi l'impact? Je ne suis pas assez calé en politique canadienne là, pour répondre à ça. Fait qu'on va suivre ça quand même de très près, puis on va vous tenir informé si jamais il y a un changement à ce niveau-là.
Bien, merci beaucoup, Martin. À chaque début d'année, on fait un balado similaire à celle-là. Hein?
Ouais.
Parce qu'il y a des changements qui entrent en vigueur pour les régimes enregistrés. Il y en a que c'est des changements routiniers qui arrivent à chaque année. Et il y en a que c'est carrément des nouveautés. Donc, on tient vraiment à tenir nos clients au courant. Donc, on va commencer par le CELI cette année, le fameux compte d'épargne libre d'impôt. C'est l'un des outils le plus populaire au Canada pour faire de l'épargne à long terme et permettre de faire croître son argent à l'abri de l'impôt. Quelle est la limite de cotisation cette année et est-ce qu'il y a une date de limite pour faire cette cotisation?
Donc, le CELI fonctionne en année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre. Donc, c'est comme ça que les règles sont appliquées. La limite de cotisation supplémentaire pour 2025, c'est de 7 000 $, la même chose que l'année passée. La limite de cotisation à vie, donc quelqu'un qui avait 18 ans en 2009 et qui n'a jamais cotisé à son CELI, là, a accumulé 102 000 de droits de cotisation au CELI. Donc, pour les investisseurs un peu plus jeunes qui n'étaient pas âgés de 18 ans en 2009, là, vous n'avez pas droit à 102 000. Il faut, votre droit de cotisation commence l'année où vous atteignez 18 ans. Donc, ça, on peut vous aider là, à déterminer, ou on peut aller visiter aussi le site de l'Agence du revenu du Canada. Il faut savoir, là, on est le 8 janvier aujourd'hui, si on va sur le site de l'ARC à ce temps-ci de l'année, l'ARC n'est pas encore au courant des mouvements monétaires dans les comptes CELI auprès des institutions financières. Les institutions financières vont transmettre l'information dans les prochaines semaines. Généralement, là, quelque part à la fin février, début mars, là, les données sont plus à jour.
Les données pour 2024.
Les données 2024. Donc là, pour l'instant, si on va sur le site de l'ARC, ça va vous donner votre droit de cotisation au 1er janvier 2025, incluant le nouveau 7 000, mais sans savoir si vous avez cotisé l'année passée ou pas. Donc, faire attention à ce niveau-là. Il y a beaucoup de gens là, qui se font un peu prendre de regarder ça, puis ils vont, tu sais, avec toute la confiance, puis ils cotisent, puis finalement, ils se font pénaliser par après et ils doivent faire un retrait. Nous, on va vous inviter à ce moment-là à nous envoyer ce montant-là, puis on va valider comme il faut. Puis dans le doute, là, attendez donc au mois de mars pour faire votre cotisation. Et là, à ce moment-là, au mois de mars, les données sur le site de l'ARC sont à jour et là, on est sûr de mettre le bon montant.
Puis il y a des clients qui le savent automatiquement qu'ils ont le droit aux 7 000 parce qu'ils ont toujours cotisé. Ça, il y a zéro problème. Mais pour ceux qui ont des situations où ils ont retiré, remis, etc., il y a eu beaucoup de mouvements, c'est mieux d'attendre.
Exact. C'est sûr que tu as le droit de 7 000, mais c'est si on veut cotiser plus, là, puis là, on veut utiliser des droits d'année antérieure, là, ça peut être un peu plus délicat.
Et nous, on fait très, très attention parce que ça coûte cher, surcotiser.
La pénalité pour la surcotisation, c'est 1 % par mois du montant excédentaire. Donc, si on... Puis l'Agence du revenu ne va pas vous le dire deux semaines après. Là, ça prend souvent quasiment un an. Fait qu'un an plus tard, c'est 12 % de pénalité du montant excédentaire. Ça peut aller très rapidement.
C'est pas fun de recevoir cette lettre.
Ça va très rapidement.
Un autre sujet chaud de début d'année est le compte d'épargne libre d'impôt pour les premiers acheteurs, donc le fameux CELIAP. Ce programme est conçu pour aider les Canadiens et Canadiennes à épargner pour leur première maison. Est-ce que tu peux nous partager quelques modalités de ce programme et aussi nous dire s'il y a eu des changements pour 2025?
Il n'y a pas de changement sur le programme. Les grandes lignes, là, donc contrairement au CELI où le fait d'être en vie puis d'avoir 18 ans, on accumule des droits de cotisation, le CELIAP, il faut vraiment avoir ouvert son compte. Il faut ouvrir le compte pour que les droits commencent à s'accumuler. Donc, c'est 8 000 $ par année de droits de cotisation. Ça fonctionne également par année civile du 1er janvier au 31 décembre. Donc, si je rouvre mon compte là, maintenant, je ne peux pas déduire mon 8 000 pour mes revenus de 2024. Je devrais donc le déduire pour mes revenus de 2025. Donc, on peut cotiser le 8 000 et on peut reporter. Donc, un investisseur là, qui aurait ouvert son CELIAP l'année passée, qui aurait mis, mettons, juste une pièce, là, juste pour dire qu'il rouvre le compte, cette année, il pourrait mettre donc 16 000 ou en fait 15 999 là, pour compléter. On ne peut pas reporter plus que 8 000 par année. Donc, mettons, je rouvre le compte puis je ne cotise pas pendant 3-4 ans. Je pourrais pas mettre comme 32 000 au bout de 4 ans. Là, je vais devoir mettre juste 16 000, puis tu sais, 16 000 par année là, pour éventuellement rattraper mon retard. Donc, le compte sert à l'achat d'une première maison. À partir du moment où on rouvre le compte, on a 15 ans pour acheter une maison. Les retraits du CELIAP ne sont pas imposables. On vous a mentionné donc que c'est déductible d'impôt. C'est pas obligé d'être déduit dans l'année de la cotisation. Donc, un jeune investisseur, peut-être ses revenus sont pas très élevés, c'est peut-être avantageux de cotiser au CELIAP, mais de ne pas utiliser. Donc, on déclare notre cotisation, puis on la laisse dans les cotisations inutilisées et on peut la déduire dans 10 ans plus tard, là, n'importe quand, quand nos revenus sont un petit peu plus élevés. Et donc, au moment d'acheter la maison, on fait le retrait, il n'y a pas d'impôt. Et contrairement au RAP, là, le régime d'accès à la propriété qui existe toujours, donc on n'a pas besoin de rembourser le montant qui est retiré du CELIAP. Et si jamais je n'achète pas de maison au bout de 15 ans, le montant est tout simplement converti ou en fait transféré dans son REER sans égard aux droits de cotisation, là, ça n'affecte pas nos droits de cotisation REER. Ça s'applique aussi aux investisseurs plus âgés là, qui auraient un CELIAP dans la soixantaine. Là, ben, à 71 ans, le CELIAP ne peut plus exister. Il va devoir transférer son argent dans le REER puis ensuite au FER.
Donc, puis aussi, on peut encore utiliser le CELIAP et le RAP ensemble.
En même temps, oui.
Donc, le RAP qui est le régime d'accession à la propriété et ça, c'est emprunté de son REER.
Oui.
Donc, merci beaucoup, Martin. Et après les vacances de Noël, c'est toujours notre temps le plus occupé de l'année et je vois déjà les annonces pour les REER en ligne partout.
Ouais.
Quelle est la limite de cotisation REER pour 2025 et quelle est la date limite pour cotiser?
Donc, cette année, la date limite, c'est probablement la plus lointaine de ma carrière. Là. C'est le 3 mars. Donc, c'est les 60 premiers jours de la nouvelle année là, qui compte. Et comme le 1er mars, qui est la 60e journée, tombe un samedi, ben ça va au lundi d'après, qui est le 3 mars. Donc, vous avez jusqu'au lundi 3 mars à minuit pour faire votre cotisation REER. Si vous souhaitez déduire là, pour 2024, ben le montant maximum de cotisation pour 2024, c'était 31 500. Si vous êtes déjà, vous avez déjà fait toutes vos cotisations, vous êtes à jour, puis là, vous voudriez cotiser tout de suite pour 2025, le montant maximum, c'est 32 490 pour 2025. On va vous inviter très fortement là, pour s'assurer qu'on ne dépasse pas le plafond de cotisation de vérifier sur le site de l'ARC. Donc ça, c'est à jour parce que les données sont transmises avec le rapport d'impôt. Ou vérifier votre avis de cotisation fédérale 2023 qui va vous donner quel est votre maximum déductible pour 2024. Vérifiez aussi votre dernier talon de paye d'employeur, surtout si vous avez un REER collectif. Donc, vous avez probablement cotisé dans votre REER collectif sur votre talon de paye. Des fois, il y en a qui ne savent pas trop où aller chercher le montant, là, mais le dernier talon de paye va vous aider. Et dans le doute, envoyez-nous tout ça, puis on va vous aider à déchiffrer ça. L'avis de cotisation, le dernier talon de paye, on va regarder ce qui a été fait chez nous, puis on va vous dire qu'est-ce qui vous reste à cotiser. C'est la bonne pratique. Donc, la limite de cotisation au REER est toujours basée sur 18 % du revenu gagné de l'année précédente, sujet au maximum que j'ai mentionné, là, de 32 490, moins le facteur des équivalence. Donc, si on a un régime de pension à prestation déterminée ou à cotisation déterminée, ça génère un facteur d'équivalence qui vient réduire nos droits de cotisation. Donc, très important de valider auprès de son avis de cotisation. Ne pas oublier votre remboursement de RAP qui ne compte pas dans votre limite. Là. Donc, si j'ai cotisé au maximum de mon REER et je dois rembourser mon RAP, ben, ce montant-là est en surplus. C'est une cotisation REER tout à fait ordinaire. C'est au rapport d'impôt qu'on va venir désigner ce montant-là comme le remboursement durable pour l'année.
Et puis, essayez de faire votre cotisation avant le 3 mars. On a toujours une personne ou deux qui nous appellent.
Ça va être qui cette année?
On ne sait pas. Mais on sait que vous avez plein de priorités, fait qu'on essaye de faire le rappel le plus que possible.
Ouais.
En 2025, de nouvelles règles ont été mises en place pour les fonds de revenus viagers, juridiction Québec seulement. Donc, il y en a de différentes juridictions dépendant de votre employeur. Donc, un fonds de revenus viagers ou FRVIER provient d'un CRI, compte de retraite immobilisé. C'est un ancien fonds de pension de votre employeur. Donc, est-ce que tu peux nous en parler de ces nouvelles règles?
Donc, il y a beaucoup de gens qui ont un CRI, compte de retraite immobilisé. Si votre régime de pension était de juridiction québécoise, bien, les règles ont complètement changé. Donc, dans le passé, un CRI, pour faire un retrait, d'une part, on ne peut pas retirer d'un CRI. On doit convertir son CRI en FRV. Et donc, du FRV, on avait un montant maximum auquel on avait le droit de retirer, qui était entre autres en fonction de l'âge. Les règles ont été changées. Donc, si on a plus de 55 ans, il n'y a plus de maximum. Donc, on peut retirer jusqu'à la totalité du compte d'un coup si on veut. On vous rappelle que c'est quand même un revenu qui est imposable en totalité. Donc, peut-être que d'un point de vue fiscal, ça ne fait pas tellement de sens de retirer le compte au complet, mais vous avez le droit, là, entre guillemets, de le faire. Donc, il y a des gens qui faisaient pour un petit peu se soustraire au plafond de retrait, on faisait ce qu'on appelait une désimmobilisation ou dans notre jargon, un flip-flop. Donc, on transférait le CRI en FRV, on transférait le montant du paiement maximum vers le REER, puis ensuite on retournait le FRV dans le CRI. Cette opération-là, non seulement elle n'est plus pertinente, puisqu'on n'a plus le droit de faire, parce qu'il y a plus de maximum, mais elle n'est même plus permise. Donc, une fois que le compte, on ne peut plus faire de transfert direct du FRV vers le REER. Donc, on oublie ça, les désimmobilisations pour les CRI provinciaux. Ça s'applique encore là, sur les CRI de juridiction fédérale. Il y a certains clients qui ont des CRI d'autres juridictions, par exemple en Ontario. En Ontario, on n'a pas le droit de retirer avant 55 ans de toute façon. Là, il n'y a rien à faire avant 55 ans. Et une fois qu'on est converti en FRV, on n'a pas le droit de revenir en CRI. Là. Donc, les règles sont complètement différentes. Donc, aujourd'hui, là, bien votre CRI est un CRI de juridiction provinciale Québec. Ça s'applique à vous. Il n'y a plus de maximum.
Puis c'est important de dire qu'il n'y a plus de maximum pour les gens qui ont en haut de 55 ans.
C'est ça. Donc, dans le passé, il y a quand même des clients qui avaient un FRV de juridiction provinciale Québec qui demandaient donc le retrait maximum du FRV. Et là, par défaut, nos systèmes, on transposait à l'année suivante l'instruction. Donc, cette année, en théorie, si on avait dit le maximum, c'est le compte au complet. Donc, n'ayez crainte, là, on ne va pas vider votre FRV Québec. Il a été introduit une notion de revenu viager maximum. Donc, c'est un calcul actuariel qui est basé sur une espérance de vie à 95 ans et un taux de rendement fictif de 4,5. Et là, ça vous suggère quel serait le montant que vous devriez prendre au maximum pour assurer la pérennité du compte en présumant que vous allez continuer de générer ce rendement-là dans le futur.
Puis il faut dire que le terme qu'on utilise, c'est montant estimé des revenus viagers.
Ouais.
C'est ça le nouveau terme pour ce montant-là qui a été introduit.
Ça ne nous empêche pas de retirer plus que ça. Donc, nos clients qui avaient comme instruction « je veux le maximum », c'est ce montant-là qui a été déterminé. Et puis, si ça ne fait pas votre affaire, là, on peut très facilement modifier ce montant-là. On est à communiquer tranquillement avec les clients. Donc, si ça vous concerne, donnez-nous un coup de fil, envoyez-nous un courriel, puis on va regarder ça avec vous, s'assurer que le retrait qui est programmé de votre FRV Québec convient bien à votre situation.
Exactement. Puis ce montant-là, il est basé sur...
Calcul actuariel, donc le 95 ans d'espérance de vie avec un rendement annuel de 4,5% présumé. Donc, c'est pas une promesse de rendement, là, c'est un estimé de rendement futur qui permettrait, si on obtient 4,5 jusqu'à 95 ans, le montant qu'on va retirer devrait assurer la pérennité du compte jusqu'à 95 ans.
Puis ce montant-là, il a été calculé vraiment pour un petit peu une mise en garde parce qu'il y a des gens qui n'ont que des FRV.
Ouais.
Alors là, c'est pour leur dire, vu qu'il n'y a pas de maximum, en bon père de famille, bien, on vous dit que voilà qu'est-ce qui va être l'impact de prendre un tel montant.
Exact.
Plus qu'un tel montant. Merci, Martin. Et peut-être une autre question qu'on se fait poser souvent, FRV et FER, comment est-ce que le minimum est calculé? Ça change à chaque année?
Oui, c'est un tableau, simplement. Il y a une formule mathématique derrière ça, là, qui est 1 divisé par 90 moins l'âge. Mais c'est vraiment un tableau, là. Si j'ai 70 ans, donc 1 divisé par 20, ça fait 5, donc c'est 5%, et ainsi de suite. Donc, on se fie au tableau. Donc, le pourcentage de retrait minimum augmente à chaque année, tranquillement. Et ce pourcentage-là est appliqué sur la valeur du compte au 31 décembre de l'année précédente. Le tableau, là, l'âge, c'est l'âge au 1er janvier. Donc, c'est pas ma fête est en juillet, puis là, je suis au mois d'août. Fait, non, c'est quel âge tu avais le 1er janvier? C'est cet âge-là qui est basé pour le tableau. Évidemment, la valeur du compte, elle fluctue. Si on obtient un rendement plus élevé que le taux de retrait, mon compte va valoir plus à la fin de l'année. Et l'année prochaine, non seulement mon pourcentage de retrait augmente, mais le compte a augmenté aussi. Donc, mon retrait minimum va augmenter. Mais les années où les rendements sont négatifs, l'année d'après, le retrait, même si le pourcentage de retrait augmente, ça se peut que votre retrait minimum soit un petit peu plus petit.
Puis on vous en informe de toutes ces choses-là. Hein? Valeur mobilière Desjardins envoie de la documentation. C'est indiqué. C'est quoi votre minimum? Vous n'avez pas à le calculer. Puis si vous avez des questions concernant le calcul ou quoi que ce soit, puis ça arrive souvent que les clients ont des questionnements, vous nous faites signe. On est toujours disponible. On a toute l'information à notre disposition.
Exact.
Aussi. Bien, merci beaucoup, Martin. On va s'en tenir à ça. On pourrait parler plus longuement de chaque produit, puis peut-être qu'on va le faire plus tard dans l'année. mais ça fait un bon début, un bon tour d'horizon pour débuter l'année. Pour tous nos clients et partenaires, toute l'équipe est disponible pour vous. Donc, Martin, moi, Mathieu, Michel, pour vous aider avec vos besoins, vos objectifs financiers personnels, communiquez avec nous. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.